Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous voulez un whisky ?
Oui, juste un doigt. Juste un droit. Hey !
L'accusé du jour est un drôle d'oiseau, j'ai nommé Twitter. Le réseau social américain est une pipelette comme on en fait peu. Chaque seconde, son bec charrie 5900 tweets, avec un avis sur tout, y compris le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans Juste un droit, la justice. Du bâtonnier de Paris au policier sous pseudonyme, tous les corps de l'appareil judiciaire ont leur compte. Et puis, il y a les autres, les 4 millions de Français connectés tous les jours au réseau social. Au royaume du moineau bleu, l'ensemble forme ce que certains appellent le tribunal de Twitter. Dans cette cour 2.0, chacun est libre de prendre sa plume tant que sa pensée tient en 280 caractères. On retrouve aussi bien des journalistes qui live-tweetent les procès, des hommes en robe noire pas trop d'accord avec une décision de justice, que des points de vue qui dament sur la culpabilité de telle ou telle personne. Ne l'oublions pas, le réseau social offre aussi une occasion salutaire pour les victimes de prendre la parole. Tous ces éléments mis ensemble nous amènent à la question suivante. Twitter est-il devenu un nouveau tribunal ? Alors vous entendrez la voix de nos invités, mais pas leur nom, puisqu'ils officient tous les deux sur les réseaux sociaux sous pseudonyme. Le premier est parfois présenté comme le Batman de Twitter. Maître Aulas, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, auteur du blog Journal d'un avocat et tweetos de la première heure, puisque vous avez ouvert votre compte en 2007.
Tout à fait, en juillet 2007, jour de la sortie du dernier tome de Harry Potter, ce qui fait une double date historique.
Effectivement, j'y avais pas pensé, mais merci pour la précision. Chris Pégy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez été officier de police judiciaire pendant une quinzaine d'années, présent sur Twitter depuis 2011. Vous êtes également auteur du blog Police de Caractère et président de l'ACPJ. Alors j'explique, c'est l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Bienvenue à tous les deux au micro de Juste un droit. Côté 20 minutes, je suis accompagné de Vincent Ventighem, journaliste au service police-justice et utilisateur expérimenté de Twitter. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bon, je tiens à m'excuser pour cette entame pas vraiment Twitter-compatible, mais je pense qu'on peut lancer le sujet et commencer par le point de départ, c'est votre arrivée sur Twitter. Alors, vous êtes tous les deux sur Twitter depuis de nombreuses années, on l'a dit, hein, 2011 pour Chris Pégy, 2007 pour Maître Aulas, mais même juillet 2007. Hein, qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire et à y parler justice et police ?
Les paroles à la défense ?
Pour une fois qu'elle parle en premier. Le réseau social Twitter est apparu en mars 2007 et donc il a eu très vite un grand succès parce que c'était une forme nouvelle de communication. On parlait de micro-blogging à l'époque puisque c'était la grande époque des blogs. Donc j'y suis allé en parallèle à mon blog parce que c'était un espace de discussion. C'était un exercice de style aussi à l'époque, c'était que 140 caractères. 280 c'est pas beaucoup mais 140 c'est très peu. Et c'est un exercice du coup littéraire qui oblige à la concision, à mettre tout dans une formule très courte, éventuellement à découper à quelques tweets, mais il faut éviter. Et voilà, l'exercice m'a plu et très vite, d'autres personnes, ce qui a été, je pense, à l'origine du succès de ce réseau social, ça a été très vite l'arrivée de journalistes qui sont arrivés parce que c'est un outil qui a été très facile pour prendre en main à Twitter. Ça ressemble à un fil de dépêche et puis faire des brèves, c'est un exercice qu'on a pensé à l'école de journalisme. Donc, ils ont été très à l'aise. Et à partir du moment où les journalistes arrivent, évidemment, tous ceux qui veulent leur parler arrivent derrière. Et ça a été très vite le début de ce réseau social.
Chris Pégy ?
Alors, le hasard fait bien les choses, puisque quelque part, c'est grâce ou à cause de Maître Aulas que je suis arrivé sur Twitter en 2011. J'étais à l'époque sur Internet, mais très peu de réseaux sociaux. C'était surtout les forums de discussion. Et moi, j'interagissais surtout sur un forum où se trouvaient des femmes victimes de viol. Donc, je leur expliquais en tant que policier, ce qu'elle pouvait faire au niveau police, niveau justice, etc. Et puis, j'interagissais également avec Maître Aulas sur son blog, en commentant beaucoup ses positions. On était à l'époque dans une période où se jouait notamment la présence de l'avocat en garde à vue. Donc, Maître Aulas en parlait beaucoup sur son blog, avec son positionnement. J'y étais opposé, cette présence de l'avocat en garde à vue, donc je le faisais savoir. Et je suis donc arrivé comme ça sur Twitter pour parler directement avec d'abord Maître Aulas et puis avec effectivement tous ceux qui le lisent, qui nous lisent et qui y sont.
Viens me rejoindre sur Twitter, je suis Terry 3.
On pourrait parler maintenant.
Dans quelle mesure un avocat ou un policier sous pseudonyme ou en son nom propre peut commenter ce qui se passe, une décision de justice ou des actions policières ?
Alors pour un avocat, c'est très facile parce que nous, on a une liberté de parole qui est inhérente à notre profession. Elle n'est pas absolue. L'ordre est là. L'ordre veille au respect de la déontologie, notamment au respect du secret professionnel. Un confrère va être rappelé à l'ordre par la justice ce prochain jour. Mais on a une très grande liberté de parole. Ce serait un non-sens que de limiter l'expression d'un avocat. Et l'ordre ne m'a jamais fait le moindre souci. Les seuls qui ont essayé s'y sont cassés les dents. Donc, pour un avocat, ce n'est pas un problème. On n'a pas de hiérarchie au-dessus de nous. On a juste l'ombre amicale du bâtonnier qui, de temps en temps, nous toussote dans l'oreille quand on dépasse un peu la ligne jaune. Mais voilà, ce n'est pas une entrave à la liberté. Bien au contraire, c'est un accompagnement à notre liberté.
Côté police, c'est plus compliqué ?
C'est un petit peu plus compliqué, hein, puisqu'en tant que fonctionnaire, on est soumis au devoir de réserve. On a un code de déontologie également qui nous empêche quand même de dire tout et n'importe quoi. Mais je crois que globalement, moi je suis sur Internet donc depuis 2009, Twitter depuis 2011, vous l'avez dit, j'ai jamais eu de soucis. J'ai jamais eu de rappel à l'ordre. Une fois éventuellement avec un blog où j'avais un petit peu outrepassé effectivement cette ligne jaune. Mais sinon, je sais que je suis surveillé. Ça m'a été dit. Hein. Je sais que l'IGPN suit mon compte. Voilà, je crois que c'est surtout, ça tient surtout à ce qu'on dit, la manière dont on le dit. À partir du moment où on ne nuit pas à la crédibilité de l'institution, où on peut être critique. Mais tout en argumentant, je crois qu'on peut se permettre de dire beaucoup de choses en restant correct.
Alors Vincent, tu vas m'accompagner sur ce coup-là parce que je vais citer quelques commentaires suite à un tweet récent que tu as posté. C'est, alors accrochez-vous, hein. Honteux, dégueulasse, cette truie devrait moisir en prison, elle a intérêt à se planquer. Alors voilà quelques-unes des réactions, je le disais, suite au tweet de Vincent qui annonçait la libération de Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, après une décision de la Cour de cassation. Donc, ces tweets sont symptomatiques de l'intérêt qui est de plus en plus important pour les décisions de justice, les faits divers, tout cet emballement qu'il peut y avoir aussi médiatique. Pour vous, c'est quelque chose qui se confirme en ce moment ?
Je ne sais pas. Il faut faire attention à l'effet déformant, miroir déformant des réseaux sociaux. Lorsqu'on veut être remarqué, il faut essayer d'être intelligent, intéressant, drôle, et si on n'a aucune de ces qualités, d'être le plus bruyant, de crier le plus fort, d'aller le plus fort dans l'excès. Et c'est cette écume-là que trop souvent on retient, et on retient pour résumer Twitter. Il y a eu certes des gens d'ailleurs dont la seule fonction et le seul amusement dans la vie semble être de venir étaler leur médiocrité en public. C'est pas à eux que je m'adresse, ce n'est jamais à eux que je me suis adressé, parce que visiblement, les personnes dont vous avez cité la prose avaient déjà eu une opinion, et la seule chose qui les intéressait était de la faire partager au monde. Je m'intéresse à ceux qui vont être choqués de cette décision parce qu'ils ne la comprennent pas, afin de leur apporter l'explication, parce que toute personne qui a un minimum d'honnêteté intellectuelle et veut bien admettre que si un juge prend une telle ou telle décision, ce n'est pas parce que c'est un imbécile ou qui vit dans une autre dimension, généralement peuplée d'ours en peluche avec des cœurs sur le ventre, mais qu'il agit selon des règles et de manière rationnelle. Et quand on leur donne cette explication, ils la comprennent. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils deviennent d'accord avec la décision, mais au moins, ça les rassure parce qu'ils comprennent que cette décision a été prise sur des bases légales et rationnelles.
Vincent.
Donc vous voulez dire Twitter sert à faire de la pédagogie, finalement ?
Alors, c'était le cas de mon blog au départ, qui n'est pas mort, je tiens à le dire. Il bouge encore. Et sur Twitter aussi, on peut en faire. Alors, c'est un autre support. Le blog permet d'avoir de l'espace, qui n'est pas forcément le cas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent surtout l'immédiateté. Si vous voulez réagir à un fait divers au moment où la nouvelle sort, avant qu'il y ait un emballement ou que tout le monde se fasse une opinion définitive, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passera. Mais il y a un vrai demande d'explication. Depuis le début, et l'apparition des réseaux sociaux n'a rien changé.
Et l'un et l'autre, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes sur Twitter qui commentent les décisions ? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt en fait, du public, ou vous qui étiez là en 2007, en 2011, vous sentiez déjà cette chose, est-ce que c'est quelque chose qu'on a toujours eu ? Il y a eu les émissions, il y a eu Crime, Faites entrer l'accusé. Aujourd'hui, on a Twitter, c'est juste un nouveau moyen. Ou est-ce que ça a ouvert aussi la voie à un autre public, peut-être ?
Ça a ouvert la voie à un autre public, mais la curiosité existait déjà avant. Là encore, il y a un effet des miroirs déformants parce que les réseaux sociaux, et Twitter en particulier, est un outil nouveau. Mais c'est un outil nouveau qui n'est qu'un support. et un support de communication, support de la pensée. Et la curiosité ou l'indignation à l'égard des décisions de justice, ça n'a rien de nouveau. On a des archives audio des derniers procès où la peine de mort était prononcée dans les années 70. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. On pouvait y entendre exactement ce qu'on voit écrit sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
On se souvient des réactions sur l'affaire Patrick Henry ou sur le procès Bonton, Bonfils, enfin voilà, sur ce genre de choses, effectivement. Mais donc, en gros, c'est juste un nouveau moyen de communication.
Voilà, maintenant, il n'y a plus besoin de se déplacer dans le hall du palais de justice pour crier sa haine. On peut le faire en pyjama depuis son salon.
Là-dessus, moi, ça amène à une question qui est toute simple. C'est effectivement, on crie devant sa télé ou on crie dans la rue contre un accusé. La justice, la police aussi, du reste, c'est un domaine qui requiert de la rigueur, de la précision. Comment on fait en 280 caractères? Est-ce que c'est seulement possible? Vous le disiez tout à l'heure, l'idée, c'est de faire un tweet qui soit bien tourné, qui réponde à tous les objectifs. Est-ce que c'est compatible avec la justice?
Oh, c'est compatible parce que depuis des années et des années, avant même l'apparition des réseaux sociaux, on a un véritable encouragement à être rapide, à être bref, à être succinct dans nos plaidoiries, dans la justice. Alors au pénal, c'est différent parce qu'on ne peut pas interrompre un avocat. On sent que ce n'est pas l'envie qui en manque forcément au magistrat, mais ils n'ont pas le droit. Au civil, ils ont le droit. Et parfois, on arrive devant un tribunal civil, c'est-à-dire un litige entre particuliers, avec des juges qui nous disent, un confrère me racontait ça encore récemment, de limiter les plaidoiries à 7 minutes. Pour des affaires qui portent sur plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est un peu compliqué quand même. Donc c'est, là encore, c'est pas une spécificité aux réseaux sociaux, on y est invité. Donner les explications, ça oblige à être bref, mais ça peut être un complément aussi du blog qu'il a, où par contre il n'y a pas de limite d'espace. Lorsque j'ai ouvert mon blog, c'était le début de ce support-là, et un des grands conseils qu'on lisait partout, si vous voulez ouvrir votre blog vous-même, c'est d'être bref. Je n'ai jamais suivi ce conseil-là, mes lecteurs en savent quelque chose. Mais même en faisant des billets très longs, un peu arides parce que je ne mets pas des images animées dedans, les lecteurs vont jusqu'au bout parce qu'ils recherchent l'information. Sur Twitter, on peut, alors on n'est pas vraiment limité à 280 caractères parce qu'on peut faire des fils, c'est-à-dire des suites de tweets. Et même maintenant, Twitter a fourni l'outil qui est fait pour qu'on puisse les lire facilement, qui s'affiche toujours à la suite. Donc Twitter a pris ça en considération. Il faut éviter juste de faire un fil de 248 tweets, ça n'aurait aucun sens. Mais en une dizaine de tweets, on arrive déjà à 2800 caractères. Ça permet de donner pas mal de détails.
Même question, j'ai envie de dire, côté police. En ce moment, on a énormément de débats sur l'utilisation des LBD, sur le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que, pour un policier tel que vous, Twitter, c'est aussi un moyen de faire de la pédagogie envers un public et d'essayer de remettre un peu les choses, j'ai envie de dire, dans le droit chemin?
C'est ça. Mais je pense qu'il faut faire cet effort-là de pédagogie, en fait. Je pense que, depuis quelques années, moi, je vois, en fait, Twitter, c'est l'avènement un petit peu aussi des chaînes d'infos en continu. Ou des faits divers, on en prend beaucoup plus qu'avant. Effectivement, il y a eu des émissions de Faites entrer l'accusé qui sont de longue date quand même, effectivement, qui parlent de faits divers. Mais aujourd'hui, on en prend beaucoup plus quand même. On en prend là où vous aviez une émission de faits divers il y a quelques années, il y a 10-15 ans, vous avez maintenant des chaînes d'infos inconnues qui peuvent vous faire du sujet, pardon, sur un fait divers pendant 20 minutes, 30 minutes, et puis ça, plusieurs fois par jour. Vous avez même des chaînes maintenant qui ne traitent qui ont des émissions, effectivement, qui traitent sur du fait divers. Donc on en a beaucoup plus. Et derrière, vous avez les réseaux sociaux en plus, qui viennent rajouter un espace de discussion. Ce qui fait que je crois que les gens se prennent la justice et de la police, on va dire, les sujets comme ça, beaucoup plus qu'avant, mine de rien. Mais ils le prennent un petit peu au visage, mais sans forcément la connaître. Sans connaître comment fonctionne la justice, la manière dont peut penser un policier, un magistrat, un avocat. Donc je crois qu'on se doit, nous, de l'expliquer, que derrière des décisions, derrière des mesures de garde à vue, ben on peut expliquer, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais en général, on peut expliquer comment ça fonctionne. Et je pense que les gens ont ce besoin de comprendre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc de la pédagogie en faut. Et il y en a qui le font très bien. Hein. Je pense à un Jap notamment, je crois que c'est Bérangère Le Boédec, qui fait régulièrement effectivement un petit fil d'explication sur ce que c'est que l'application des peines, qui est un des sujets du droit les plus complexes aujourd'hui et les plus méconnus, y compris de policiers, je pense en tout cas de moi. Et ces choses-là sont toujours très intéressantes à suivre. Donc c'est vraiment c'est un effort qu'il faut faire.
Alors, si je comprends bien, je suis fichu. C'est la prison.
Le tribunal, d'abord.
Le tribunal ? Eh ben...
on parle beaucoup de décision de justice, on n'a pas encore beaucoup parlé de procès en tant que tel. On a vu quelque chose apparaître depuis quelques années, quelque chose qu'on fait nous également à 20 minutes, c'est des live tweets d'audience. Aujourd'hui, on ne rentre pas une caméra, pas un micro dans une salle d'audience, mais on peut rentrer un téléphone portable et finalement faire un live tweet. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose de bien? Est-ce que ça permet de bien retranscrire? Est-ce que ça apporte quelque chose qu'on n'avait pas auparavant? Et de quel œil vous voyez ça?
Chris PJ à la barre.
Je pense que c'est effectivement une des nouveautés de proximité. Voilà, on rapproche la justice des citoyens, des twittos, et ça permet, je pense, à tout à chacun de pouvoir se sentir un peu... C'est quand même pas non plus, on n'est pas non plus dans la salle d'audience, mais fonction des journalistes qui font ces live tweets, je pense qu'on a moyen effectivement de se sentir très proche de l'audience. Donc ça, on n'est pas dans la salle, on n'entend pas tout, mais je pense à, je crois que c'est Claire Barbier, je crois, qui a fait un live tweet récent d'un procès d'assises.
Marie Barbier,
autant pour moi, Marie Barbier qui a fait un live tweet récent
du procès de Denis
Baupin. Il y avait aussi les assises des policiers
du viol du
36. Et je pense que quand on suit effectivement ces live tweets, on a quand même une idée assez précise de ce qui se joue dans la salle et de ce qui s'y dit. Donc je pense qu'on rapproche effectivement de façon très positive la justice, en tout cas des citoyens.
Maître Wallace, à vous.
Oui, c'est une nouvelle forme d'un exercice qui est aussi ancien que la presse, qui est de la chronique judiciaire. Là, la différence, c'est qu'il y a vraiment l'immédiateté, puisque les messages peuvent être envoyés directement au public, directement depuis la salle. Mais si on regarde des vieux films en noir et blanc, on voit qui portent sur des procès, on voit chaque interruption de séance, tous les journalistes se précipiter vers les cabines en nombre insuffisant, déjà le manque de moyens à l'époque, pour dicter au téléphone les informations pour faire une brève pour la prochaine édition. Mais voilà, les cabines téléphoniques ont disparu et maintenant les journalistes n'ont plus à se précipiter, ils sont assis tranquillement dans la salle d'audience et le font en direct. Mais ça reste fondamentalement le même exercice. C'est différent de la chronique judiciaire vraiment traditionnelle qui est l'article écrit à froid, enfin à froid en tout cas après l'audience, qui est envoyé, qui est publié le lendemain. Ça intéressera le public qui veut aller plus au fond des choses, qui veut un article plus réfléchi. Mais parfois, pour un procès vraiment intéressant, on veut suivre en direct. Il y a certains procès, oui, je rafraîchissais régulièrement mon écran parce qu'on annonçait le retour du jury, on allait entendre le délibéré quasiment en même temps, au même moment où il était prononcé. Il y a parfois un vrai suspense et on retrouve un petit peu ce frisson qu'on très atténué, mais il y a voilà ce suspense qui n'existe pas évidemment, puisque quand on cherche une chronique judiciaire dans un journal du lendemain, on connaît déjà le résultat. Donc ce sont deux facettes du même exercice, mais c'est un vrai exercice journalistique. Il y a en effet, vous avez des confrères qui excellent, on a cité certains noms ici, il y avait Charlotte Piret également. C'est intéressant, et d'ailleurs ces live tweets ont beaucoup de succès, ce qui encourage la rédaction à continuer aussi. Mais ça ne remplacera pas l'exercice traditionnel de la chronique judiciaire. C'est une façon aussi, en quelque sorte, pour un journaliste de publier ses notes en direct, et puis ensuite il relit ses tweets pour avoir qu'a dit l'avocat, qu'a dit l'avocat général, et faire sa synthèse ensuite.
Chris PJ.
On n'est pas dans l'analyse en fait, avec le live tweet, c'est pas de l'analyse, c'est vraiment c'est de l'instantané, c'est de l'info brute, et chacun la prend comme elle vient, avec sa particularité, son émotion. C'est vraiment différent. L'exercice est effectivement différent.
Et les avocats et les magistrats qui suivent ça en direct peuvent, eux, apporter le commentaire, expliquer, tiens, pourquoi dit-il ça? Ah, il va faire cette demande-là, et on peut éventuellement apporter cet éclairage-là, y compris aux journalistes présents dans la salle. Donc, c'est un échange aussi, sans le bruit du bavardage derrière.
Vincent, tu voulais rajouter quelque chose?
D'un mot, si on en venait à une proposition de filmer des audiences et de les retranscrire, pour, contre?
Voilà, vous nous demandez de faire comme sur Twitter, d'être
exactement.
Bref. Et oui,
allez,
ou non.
280 caractères.
Exactement, on va faire quoi?
C'est un sujet de réflexion infinie pour moi. Je n'ai pas d'avis définitif sur la question. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Je voyais en Espagne, où j'étais récemment, il y a le procès des indépendantistes catalans qui a lieu, et l'Espagne permet de retransmettre des audiences à la télé. Donc j'ai suivi un peu, ne serait-ce que pour voir la procédure pénale espagnole. Et c'est un exercice qui passe bien à la télévision parce que bon, c'est assez encadré quand même. Il n'y a pas de vision, pas de commentaires, pas de musique en fond sonore, pas d'effet de montage ou quoi que ce soit. On peut juste changer de plan en fonction des personnes qui s'expriment. C'est intéressant. Et puis, je regrette aussi l'absence des photographes. Récemment, Le Monde avait publié des archives de 50 ans de chronique judiciaire et on avait encore les dernières photos jusqu'au procès Dominici. On voyait notamment des avocats qui sont célèbres maintenant pour nous, en train de plaider, en pleine plaidoirie. Il y a une photo extraordinaire comme ça de Petiot en train de parler. Enfin, on ne sait pas ce qu'il raconte, mais on voit qu'il a les mains dressées, qu'il combat face à la cour. C'est extraordinaire, ces témoignages qui ont disparu. À la place, il y a le dessin de presse judiciaire qui est aussi un exercice intéressant. Donc, malheureusement, devoir faire un tel choix, autoriser le retour des photographes, ça risque d'être la fin du dessin de presse. Et puis, je ne sais pas aussi pour nous, avocats, est-ce que la présence d'une caméra, je n'ai jamais eu à plaider en présence d'une caméra comme ça, est-ce qu'il n'y a pas forcément la tentation à un moment de plaider pour la caméra et pour le public plutôt que pour le tribunal ? On sait qu'il y a des affaires où, juridiquement, c'est perdu, mais on va plaider pour l'opinion publique. Je ne citerai pas une affaire qui mettait en cause une grande banque française il y a quelques années, mais c'était clairement l'objet de la défense. On va perdre, mais on va avoir l'opinion publique avec nous. Ça peut renforcer aussi ces travers-là. Je n'ai pas d'opinion définitive. Ça me plonge sans cesse dans un abîme de réflexion.
Des questions se posent, mais j'y suis globalement favorable, effectivement. Je crois qu'il y a une vraie demande. Et puis une vraie nécessité, encore une fois, si tant est que d'ailleurs on puisse expliquer des choses. Des images brutes. Sans explication derrière, ça me paraît compliqué, mais des images et puis derrière avec un plateau, effectivement, on va peut-être un petit peu expliquer les choses, ce qui s'est passé. Parfois c'est technique quand même un procès, hein, donc ce sont des professionnels quand même qui parlent, hein, des avocats, des magistrats, des experts, donc c'est parfois très technique. Et il est bon parfois de vulgariser un petit peu ce vocabulaire. Donc je pense qu'avec une dose d'explication quand même, encore une fois, ce serait effectivement, on aurait tous à y gagner, y compris la justice surtout, et donc le citoyen.
T'as pas vu la verseuse ?
Je l'ai cassée. Si t'étais sur Twitter, tu le saurais déjà.
Je reviens à Twitter. La cohabitation, on l'évoquait tout à l'heure avec les autres tweetos, mais entre police et justice, est-ce qu'il y a la guéguerre se poursuit sur Twitter ?
Oh, la guerre se poursuit partout, mais depuis 2011, on peut aller la poursuivre dans les commissariats, donc Twitter a perdu beaucoup d'intérêt pour ça. Non, plus sérieusement, il n'y a pas de guéguerre entre policiers et avocats. D'abord, ils sont armés, donc on va éviter toute provocation. Mais nos deux professions ont en tête des intérêts différents, et parfois divergents dans le cadre d'une procédure. Les avocats, on est les défenseurs de l'intérêt individuel, de la personne qui est poursuivie. Les policiers, eux, ont en tête la protection de l'ordre public de manière générale, de la paix publique et la répression de la découverte et la répression des crimes. Ce sont deux nobles causes. Il n'y en a pas une qui l'emporte sur l'autre. Et c'est de leur confrontation perpétuelle que naît un équilibre. Et on espère que cet équilibre s'appelle la justice. Donc, voilà, parfois y avoir dans le cadre de dossiers, dans le cadre d'auditions, des choses un peu tendues parce qu'on n'est pas d'accord sur les méthodes, sur les questions qui sont posées. Mais on a nos armes aussi. On invite notre client à ne pas répondre à une question qui nous déplaît. Le policier se fâche et puis ensuite, on va boire un café ensemble.
Chris Pégis.
Et ensuite, surtout, le client, finalement, répond aux questions quand même.
Pas les miens. Mais effectivement, j'ai des confrères qui sont moins doués que moi.
On en profite pour régler quelques comptes, c'est bien.
C'est l'éternel débat sur je dis à mes clients de garder le silence et...
Ils ne le font jamais.
Et ils ne le font jamais.
Non, je crois que guéguerre, effectivement, le mot est un petit peu fort. Il y en a surtout, effectivement, au début des années 2010, hein, quand il y a eu ces discussions sur la présence de l'avocat en garde à vue. Depuis, les gens ont appris à se connaître, et puis c'est comme ça, on fait avec. Hein. Moi, j'y étais opposé, mais je fais avec, c'est comme ça, c'est le droit. Donc voilà, donc chacun est à sa place, en fait. Hein. Effectivement, chacun défend un petit peu son bout de gras, sa vision des choses. Et après, c'est le principe de la justice, en fait. Hein. Vous avez des policiers qui ont un rôle, les avocats ont un rôle, et puis derrière, vous avez des magistrats qui sont là pour trancher. Vous avez un procureur qui représente l'accusation, et un juge derrière qui va juger, qui va prendre position du coup, qui va dire le droit. Donc chacun défend sa position, et puis c'est comme ça que ça doit fonctionner, et puis je pense que ça fonctionne très bien.
Maître ?
Policier et avocat, il ne faut jamais l'oublier, appliquent les mêmes textes de loi. Il n'y a pas un code de procédure pénale pour la police, un code de procédure pénale pour les avocats, c'est le même texte. Bon, il est plutôt rédigé pour la police que pour les avocats, mais il demeure que la loi est la même pour tous. Donc, fondamentalement, on a le même outil.
La même base.
Aujourd'hui, il était au tribunal. Au tribunal, en ma présence, tout l'après-midi.
Non.
Si ! Si ! Si !
J'ai une autre question sur ce qui vous amène à tweeter et sur l'intérêt que vous portez aux commentaires. À quoi vous réfléchissez ou comment vous choisissez les sujets sur lesquels vous tweetez ? Parce que vous êtes tous les deux quand même des tweeters réguliers, des gens qui postent de manière assez conséquente sur Twitter.
Plusieurs fois par jour. Hein.
Oui, alors Twitter est le média de l'immédiateté et c'est comme ça que ça fonctionne. Je me connecte quand j'ai du temps libre, non pas que je manque de clients ou de dossiers à m'occuper, mais la profession d'avocat est ainsi faite qu'on a le temps de rien et pourtant on est contraint très souvent d'attendre dans les salles d'audience, d'attendre toujours que l'avocat attend le juge et le juge attend l'avancement. Mais on passe énormément de temps dans les prétoires tout simplement à attendre notre tour. Et après ça, alors autrefois on sortait le journal, maintenant ça se fait un peu moins, sur 20 minutes bien sûr, et ça va de soi, et le canard le mercredi. Mais on ne peut pas travailler un autre dossier, ce n'est pas possible, on est concentré sur un dossier. Imaginez, souvenez-vous quand vous avez passé des épreuves, des oraux, si vous commencez à réviser notre leçon, vous entrez dans la salle, vous ne vous souvenez plus de rien. Donc on est bloqué par son dossier et on doit attendre. Mais Twitter est un bon moyen de passer le temps, passer le stress aussi, oublier un peu l'angoisse qui nous étreint avant que notre dossier soit appelé. Et donc on se connecte, on regarde les derniers tweets, nos dernières notifications, et s'il se passe quelque chose d'intéressant, surtout moi qui ai un certain nombre de followers, j'ai toujours des gens qui ont la délicatesse d'attirer mon attention sur une question qui les intéresse. Et voilà, parfois l'inspiration vient en quelques minutes et on commence à tweeter rageusement quand son dossier est appelé et on a oublié pourquoi on est là.
Chris Péji ?
Ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui font l'actualité. Donc c'est surtout eux qui nous appellent en général. Et puis à un moment donné, il peut y avoir aussi un besoin de dire quelque chose, une émotion qui passe, et puis on a envie de l'écrire. On dit souvent qu'écrire, c'est une manière, effectivement, de... C'est un, je ne veux pas dire un défouloir, mais c'est une façon d'extérioriser les choses. On y est, finalement. On le dit à plein de monde, au Twitter, mais ça peut être une manière, effectivement, d'extérioriser un sentiment qui nous anime à un moment donné, sur un sujet d'actualité, ou pas du tout. Donc ça dépend, en fait.
Moi, quelque chose qui me fait démarrer à chaque fois, c'est l'instrumentalisation du droit et de la justice à des fins politiques et plus exactement politiciennes. Ça, quand un politique, quel que soit son camp, il y a juste des camps qui l'utilisent plus souvent, cette méthode, mais raconte n'importe quoi, profite d'une décision ou d'un fait divers en l'interprétant, dans le meilleur des cas, voire en la déformant, pour faire avancer son agenda politique, il est à peu près sûr de me trouver sur son chemin assez rapidement. Je ne supporte pas ça. Ça me met dans une rage folle. N'exagérons rien non plus. Mais voilà, ça m'agace particulièrement et j'essaye d'apporter à chaque fois la contradiction.
Alors, on trouve des ennemis sur Twitter. En tout cas, ça peut générer des inimitiés. Est-ce qu'on trouve également des clients ou des pistes pour faire avancer une enquête ou un dossier ?
Alors, j'ai jamais eu besoin de faire avancer une enquête pour des raisons assez évidentes. Des clients, assez peu. Maintenant, il est possible que des gens m'appellent à mon cabinet pour prendre un rendez-vous. Et en fait, c'est parce qu'ils ont fait des recherches très, très poussées pour découvrir ma véritable identité qui est admirablement bien dissimulée. Parfois, certains me le disent d'ailleurs. J'aime beaucoup ce que vous faites. Une fois, je fais semblant de ne pas comprendre et on passe à autre chose. Mais directement sur Internet, non. Sauf que parfois, quand je vois passer justement quelque chose, un fait que je trouve vraiment digne d'intérêt et que je vois que cette personne a besoin de l'assistance d'un avocat, mais n'osera pas y aller parce que tout de suite, elle a peur de faire la démarche, elle a peur que ça se retourne contre elle, elle n'a pas les moyens forcément. Là, voilà, je ne m'interdis pas de jouer le Batman justement des réseaux pour justifier un peu mon image de profil. Mais c'est assez rare. J'ai déjà largement de quoi m'occuper à côté. Quant aux enquêtes, bien là, je me tourne vers le commissaire Chris Péji.
Déjà pas commissaire, malheureusement. Non, alors je pense qu'effectivement, dans les enquêtes, ça peut aider. Je pense que ce n'est pas fondamental. Ça peut aider. Mais comme n'importe quoi, en fait, hein, ce que publient les gens sur les réseaux sociaux, quand vous avez effectivement un suspect en ligne de mire, vous essayez de connaître ses habitudes. Donc, si effectivement vous constatez qu'il a un compte Twitter, vous allez voir ce qu'il écrit. Peut-être qu'à un moment donné, ça va sourire, ça va aider l'enquête, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Hein. De la même manière que Facebook, donc de la même manière que n'importe quoi. Mais plus que des clients, je pense, ou aider à résoudre des enquêtes, je pense que Twitter, ça vous fait rencontrer surtout d'autres personnes, en fait. Ça vous décloisonne un petit peu de votre environnement. Moi, par exemple, qui étais policier, je nageais beaucoup dans un univers policier, avec des amis policiers, avec des collègues, Et Twitter, ça m'a amené surtout ça, en fait. C'est-à-dire de rencontrer des gens, des avocats, des magistrats, des douaniers, plein de professionnels avec qui on va pouvoir discuter. Twitter a cette faculté, en fait, de casser des barrières, en fait. Et à un moment donné, ce que vous pourrez dire en tant que professionnel, d'un policier à un magistrat, dans le bureau du magistrat, chacun va être à sa place, va garder sa distance, si vous voulez. Et ma Twitter va casser cette barrière et va offrir la possibilité d'être un petit peu plus direct, d'aller discuter effectivement de choses qu'on ne comprend pas, parfois. Moi-même, hein, des fois, je le dis très, très facilement, Twitter m'a appris énormément de choses avant toute autre chose. J'ai rencontré des gens formidables, certains sont devenus des amis, donc ça offre surtout des belles rencontres, en fait, Twitter, mine de rien.
Même pour nous, journalistes, ça offre la possibilité de s'adresser directement à un procureur, c'est quand même assez appréciable.
Michel Morteau. Mortez, c'est pas votre vrai nom ?
Non, c'est un pseudonyme. À l'époque, la mode était à l'Amérique du Sud.
Pour enchaîner, moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Chris Pégy. Vous parlez de l'émotion aussi, parfois, à faire partager. Twitter sert aussi à ça. Vous le faites, mais vous le faites sous pseudo, et l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le choix de ce pseudo ? Et est-ce que ça a un impact sur la façon dont vous dites les choses ?
Maître Aulas, passe à la barre.
Alors, le choix du pseudonymat, je l'ai fait il y a 15 ans, le 15 avril 2004, le jour où j'ai ouvert mon blog. C'est une décision qui m'a pris à peu près 10 secondes et je passe depuis 15 ans à l'expliquer. C'est la question qu'on pose le plus souvent avec le « comment faites-vous pour défendre des salopards ?» Donc, pseudonymat, je préfère ce terme effectivement parce que parfois on parle d'anonymat et généralement c'est connoté et c'est jamais innocent. Quelqu'un qui parle d'anonymat, il a tout de suite, il prend déjà position. C'est pas de l'anonymat parce que je suis en fait plus connu sous mon pseudonyme que sous mon vrai nom. C'est sous mon vrai nom que je suis anonyme en fait. Et c'est quelque chose de naturel sur Internet et de manière générale sur tous les forums de discussion. À l'époque du web 1.0, on n'écrivait pas, on ne signait pas sous son vrai nom. On prenait un surnom avec une image qui nous symbolisait. Donc ça m'a paru normal. Ça m'a paraissait aussi une démarche naturelle parce que j'ai toujours distingué mon site, mon blog et aujourd'hui mon compte Twitter de mon activité professionnelle. Je ne me mets pas en scène. Certains confrères le font, libre à eux, c'est leur choix, ce n'était pas le mien. Je ne me mets pas en scène, je ne raconte pas mes dossiers. Là aussi, c'est un choix qui m'a paru naturel. D'autres le font très très bien, notamment je pense à Maître Mo qui raconte en modifiant juste ce qu'il faut et toujours avec l'accord de ses clients. Donc il est parfaitement dans le cadre de la déontologie et il le fait avec beaucoup plus de talent que moi. Puis il a eu des dossiers bien plus intéressants que moi. Donc moi, je préfère me poser comme témoin et comme explicateur de la justice, chacun son rôle. Et voilà, le pseudonymat, c'est quelque chose de naturel. Internet, c'est un côté bal masqué. Et c'est même si vous venez un bal masqué sans être déguisé, sans masque, c'est là que tout le monde va vous regarder de travers. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Quel est son problème ? Et voilà, il y a tout de suite le soupçon qui apparaît de, en fait, il veut se mettre en scène, il veut se rendre sympathique. Et c'est peut-être un des éléments qui a été à l'origine du succès de mon blog. C'est que comme j'écrivais sous pseudonyme, je ne suis pas le premier avocat à avoir écrit sur Internet, mais je suis le premier, à ma connaissance, à l'avoir fait sous pseudonyme. Il n'y avait pas ce procès d'intention de, en fait, il vient vendre son cabinet, il vient vendre sa clientèle, il vient me dire, regardez comme je suis bon, regardez comme je suis sympathique, prenez-moi comme avocat. Du coup, comme il n'y a pas ce soupçon, ça permet le dialogue plus facilement. Et donc voilà, mais vraiment, ça m'a pris 10 secondes, c'était tout à fait naturel. J'utilisais en fait ce pseudonyme avant même d'ouvrir mon blog comme signature dans les espaces de commentaires sur les blogs des autres. On commence toujours comme ça, il fallait signer d'une façon. Puis quand j'ai ouvert mon blog, j'ai gardé la même signature pour que les gens me retrouvent, tout simplement.
Chris Pégy ?
Je crois que pour un policier, c'est surtout une façon de se protéger, hein, l'anonymat. On a quand même des fonctions, effectivement, qui sont très visibles, qui sont quand même, dans une certaine mesure, qui peuvent être dangereuses. Donc, être anonyme, c'est se protéger aussi d'une certaine façon. Et puis, on ne va pas se mentir, hein, j'aurais écrit mon nom sur Twitter à l'époque, il y a 10 ans, personne ne m'aurait suivi. J'ai écrit Chris Pégy, tout de suite, on voit la référence, effectivement, et puis ça provoque de l'intérêt. Donc, on ne va pas se mentir, il y a de ça aussi. Mais c'est cumulatif en fait. Après, ça doit surtout être un choix personnel. Est-ce que donner des conseils à tout le monde, est-ce qu'il faut être anonyme, est-ce qu'il faut être sous son vrai nom ? Il y a du bon et du moins bon des deux côtés, mais ça doit surtout rester propre à chacun en fait. Une décision qui est tout à fait personnelle, qui doit se respecter quel que soit le choix.
Vincent, tu voulais dire quelque chose ?
C'est drôle, vous parlez de décision qui doit se respecter. Je me tourne vers vous, Maître Eolès. Vous avez été outé par l'un de vos confrères.
C'était en 2017, je crois.
Ne le dites pas, les gens vont aller chercher le tweet. Personne ne l'a lu. Donc.
Oh, vous êtes quand même qualifié de l'avocat anonyme le plus connu de Twitter. Donc, non, mais bon, voilà, comme vous le dites, vous intervenez sous pseudo et maintenant, les gens qui gravitent dans le milieu connaissent votre vrai nom. Pourquoi vous avez été outé comme ça? Est-ce que vous avez senti une espèce de vengeance dans ce fait-là?
Alors, personne n'a publié mon véritable nom sur Internet pour me faire un compliment. Ça n'a jamais été fait avec de bonnes intentions. Donc au moins, ça révèle clairement les idées qu'il y a derrière. Non, je pense que le fait que j'agace ou que je provoque des jalousies, c'est quelque chose que de naturel et que j'accepte, c'est inhérent. Et sans vouloir vexer les intéressés, je m'en contrefiche, mais c'est limite vexant pour eux. Je pense que l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils pensent qu'en publiant ma véritable identité, ça va me pousser à me taire, à me retirer d'Internet, à me cacher à nouveau, sauf que voilà, ils sont déçus et j'en suis ravi. Je n'ai rien à cacher, je n'ai pas de cadavre dans le placard, je suis véritablement avocat, je n'usurpe pas mes fonctions, ce que je dis, le peu que je dis sur moi est vrai, je bois du thé, j'aime la Guinée, j'aime le rugby, je circule à vélo, j'ai des témoins ici. En quoi révéler mon nom poserait un quelconque problème? L'ordre sait qui je suis. Justement, à l'époque des grands débats qu'il y avait sur la présence de l'avocat en garde à vue, l'ordre avait fait un procès à un syndicat de policiers qui avait dit que les avocats ne voulaient ça que parce qu'on était des commerçants du droit. Et d'autres propos peu amènes, j'avais été cité comme témoin. Il m'avait demandé de témoigner parce que je fais des gardes à vue pour montrer ce que c'est que le travail d'un avocat en garde à vue. Et c'est le bâtonnier de l'époque, Christian Charabornazel, qui m'avait demandé de témoigner. Voilà, je l'ai pris comme une confirmation que, non seulement l'ordre ne voit rien à redire à ce que je fais sur Internet, mais même en fait, en profite plutôt parce que j'espère en tout cas donner une bonne image de la profession d'avocat, moins austère que la caricature qu'il y a parfois de nous. Et je fais tout ça sans que ça coûte un centime au service communication de l'ordre. Tout le monde est content.
J'aimerais rebondir juste sur ce que disait tout à l'heure Maître Evelas en parlant de pseudonymat, anonymat. Twitter n'est pas un endroit où on est anonyme, effectivement. Et c'est surtout pas un endroit où on peut dire n'importe quoi. Ça veut dire qu'on peut pas tout se permettre quand même. On peut tous émettre un avis, plus ou moins bon, juste, pas juste. Mais en tout cas, on doit quand même respecter certaines règles, notamment pénales. On l'a vu, certaines affaires récentes qui sont arrivées sur Twitter, des personnes qui se sont faites menacer, insulter, ont été condamnées. Donc Twitter, c'est pas un endroit où on est anonyme. On a quand même certaines règles à respecter. Vous avez d'ailleurs un avocat parisien... c'est Maître Éric Morin qui s'est spécialisé sur ces affaires-là. Enfin, spécialisé, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, qui en a traité quelques-unes.
Qu'on a interviewé dans Juste un droit.
Qui a fait une émission.
Et donc, avec succès. Donc, comme quoi, voilà, Twitter, c'est pas un endroit où on est anonyme. On ne dit pas n'importe quoi non plus.
Et malgré tout, ça, pour rebondir aussi sur ce que vous venez de dire, c'est un endroit où on peut avoir quelques petits ennuis à cause de ça. Je pense à l'une de vos collègues policières qui a été menacée de mort. Là, il y a une personne qui a été condamnée. Je pense à certains avocats qui ont eu, notamment à l'une d'entre elles, qui a commenté le combat entre Booba et Caris à l'aéroport et qui a eu des soucis avec d'autres avocats. C'est aussi un endroit où on peut être taclé de façon assez violente. Mais il y a aussi une forme de solidarité qui s'exerce dans ces cas-là. Enfin, il y a une corporation quand même.
Oh, pas plus sur Twitter que dans la vraie vie, en tout cas en ce qui concerne ma profession. Mais oui, si on va sur les réseaux sociaux, si on prend la parole publiquement, il faut avoir le cuir épais. Parce qu'on va se prendre des remarques parfois peu amènes, totalement disproportionnées par rapport à ce qu'on pensait être une plaisanterie. Il faut avoir aussi ce filtre mental de savoir distinguer les vraies indignations des indignations de façade, des indignés professionnels qui ne sont là que pour... Dire qu'ils sont les soldats d'une cause et qu'ils cherchent partout. Vous dites ça, mais c'est un scandale. Bon, si vous les ignorez, vous les bloquez encore mieux. Vous vivez paisiblement et eux continuent leur carrière de leur côté. Il faut vraiment les ignorer, cela, c'est les nuisibles de Twitter, mais ça n'est pas ça, les réseaux sociaux. Chris disait tout à l'heure que c'est un lieu de rencontre, c'est exactement ça. Donc il ne faut pas se laisser arrêter par ça. Que ça aille jusqu'aux menaces de mort, ça n'a jamais été mon cas en ce qui me concerne. Je suis pourtant beaucoup plus exposé. Il y a aussi le fait, on le réalise maintenant dans la société où nous sommes. Le fait d'être un homme, ça limite considérablement le courage de gens qui voudraient s'en prendre à moi. C'est pas un hasard si les personnes dont vous parliez étaient systématiquement des femmes. Je pense que c'est plutôt ça le problème. C'est plutôt un problème de sexisme que de liberté d'expression. Et la nature a fait que je ne suis pas particulièrement exposé à ce danger. C'est une profonde injustice dont je profite honteusement.
Je crois qu'à partir du moment où on s'expose, on prend le risque de la critique. La critique, c'est une chose, et elle est heureuse. Malheureusement, elle a aussi parfois aucune limite. Donc c'est comme n'importe qui, vous prenez des acteurs, des journalistes, à mon avis, ils sont harcelés, insultés, tout ce que vous voulez, assez régulièrement. Nous, chacun à notre niveau, on s'expose un petit peu, avec notre vrai nom ou pas, on prend un risque quand même, mine de rien. Donc effectivement, et après, il y a des excès. Comme dit Maître Evalas, on les met de côté, on fait avec. Si effectivement une infraction est commise, on a tout le loisir de déposer plainte, d'être défendu devant un tribunal et puis de poursuivre tout ça. Donc voilà.
Grâce, ce serait beau, Chris PJ défendu par Maître Evalas dans un procès après des menaces sur Twitter, la boucle serait bouclée.
Je ne me le souhaite pas en tout cas.
Exactement, on ne va pas vous le souhaiter.
On le souhaite à personne. Oui.
C'était le mot de la fin. Merci à tous. Une fois n'est pas coutume, juste en droit ne rendra pas de verdict. Plutôt un état des lieux. Twitter reste le média de l'immédiateté où la prise de recul est rarement permise. Mais il faut lui reconnaître une qualité et on va le faire. Ce tribunal où chacun est libre de s'exprimer nous tend un miroir grossissant ou déformant, des tensions et des pulsions qui traversent la société française. Et rien que pour ça, l'oiseau bleu mérite de pépier en liberté. Alors avant d'ouvrir la cage, je voudrais remercier nos invités du jour. Maître Evalas, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et auteur du blog Toujours en vie, donc Journal d'un avocat. Chris PJ, on peut vous lire sur le blog Police de Caractère et suivre votre action de président de l'ACPJ, donc l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Enfin, merci à Vincent Ventigame qui a rendu cet épisode possible. J'enjoins nos abonnés à vous suivre tous les trois sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. On arrive au moment où je vous demande des retweets et des followbacks. Ce qui nous aiderait vraiment, en fait, c'est que vous nous laissiez des commentaires en 280 signes ou plus sur notre page iTunes. Vous n'êtes pas d'accord avec le verdict de l'émission, vous voulez proposer un sujet ou simplement discuter, je réponds à tous les mails envoyés à audio@20minutes.fr. La séance est close, à dans un mois, et que justice soit faite.
Vous voulez un whisky ?
Juste un doigt. Juste un droit. Hey !
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.